Bonjour, Chaëlle.
Le titre de votre livre est plutôt clair, hein, selon vous, les relations amoureuses en 2017, c'est le chaos. Un chaos qui a plusieurs sources. L'émancipation féminine en serait la première. Internet et la commercialisation des relations, la seconde. Est-ce qu'on peut résumer le propos de votre livre comme ça, Natalia ?
Oui, tout à fait. Je pense que effectivement, la thèse de départ, c'est que la modernité n'a pas apporté de progrès, en tout cas pas dans les relations amoureuses. En apporter dans d'autres domaines. Et effectivement, le point de départ du livre est une critique du féminisme, décrit comme une sorte d'arnaque de marketing, hein, qui a été inventée dans les années 60, dans les années 70. Donc effectivement, je dis bien que les femmes ont acquis de nombreux droits, mais que malheureusement, cette euphorie des années 70-80 a maintenant fait place à beaucoup d'interrogations, de doutes et un sentiment d'être complètement perdu dans les relations amoureuses.
Ouais, il y a justement une confusion, oui, hein, entre les rôles féminins et
oui,
masculins.
Oui,
c'est de là que provient ce chaos. Enfin, c'est l'une des bases possibles.
Je pense que cette confusion, on l'a effectivement voulu, malheureusement. C'était bien la base de ce phénomène de déconstruction de 1968. Donc, phénomène de déconstruction qui a joué dans toutes sortes de domaines, hein, aussi dans le religieux, et qui a porté l'avènement du monde consumériste. Donc, à partir du moment où on a voulu indifférencier le masculin et le féminin, je pense qu'effectivement, on en paye encore les conséquences, et que mélanger ces deux choses ou rapprocher complètement le masculin du féminin induit forcément un désarroi collectif à un moment donné.
Donc si ça marche pas entre les hommes et les femmes, c'est la faute des femmes ?
Je pense que...
Bien sûr.
Je pense que c'est la faute du marché. Je pense pas que ce soit les femmes qui aient inventé ce féminisme. Je pense que ça a été décrit comme ça par certains économistes qui ont dit que ça a été une invention de marketing pour créer des consommatrices parfaites, donc pour rapporter au marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme travaille beaucoup, bah, elle rapporte au marché, elle consomme, etc. Donc il y a tout un schéma qui en fait favorise. Je dis toujours qu'il y a un seul gagnant dans l'histoire, c'est le marché, c'est la consommation, c'est le capital. Et les gens se présentent de plus en plus comme des produits aussi dans les relations amoureuses. Ils se positionnent sur le marché, il suffit de voir sur les sites internet, comme des produits. Donc à la fois objet, mais produit. Produit également.
Donc Internet a révolutionné nos vies, a révolutionné,
oui,
nos rencontres, pour le pire,
ouais,
plutôt que pour le meilleur.
Je pense qu'Internet a induit une transformation très forte dans le rapport au temps. Donc il y a toute une notion d'intimité, de confidentialité, de sacré qui a disparu. Toute une lenteur aussi, le fait que les gens supportent plus d'attendre, de se retrouver seul par exemple après un divorce ou de souffrir parce que le marché nous dit si on est malheureux c'est de notre faute, on a tous les moyens pour trouver le bon produit ou la bonne personne au bon moment. Donc c'est vrai qu'il y a une déformation des valeurs, des codes qui induit quand même pas mal de désarroi au final.
Vous regrettez même la disparition de la galanterie.
Est-ce que
vous faites une généralité ? Il y a peut-être des exemples cachés finalement.
Alors effectivement, je dis pas qu'il y a plus du tout d'hommes gays. Il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais c'était une constante. Dans les témoignages féminins, on m'a beaucoup dit effectivement, il y a une disparition de la galanterie. Donc ça a été beaucoup mentionné dans les témoignages féminains. Et en même temps, certains hommes disent on peut plus être galant parce que les femmes veulent une égalité absolue. Donc c'est devenu un petit peu compliqué, je pense, des deux côtés.
Mais du coup, avec cette égalité absolue, la répartition des tâches, elle est modifiée. Avant,
oui,
c'était l'homme,
oui,
au boulot,
oui,
la femme,
oui,
à la maison.
Oui, oui, oui.
Pour vous, c'est impossible d'avoir une relation harmonieuse si c'est pas dans ce modèle-là ?
Je crois pas. Il y a des personnes, effectivement, on le verra quand on parlera des témoignages, qui ont trouvé peut-être d'autres modèles après avoir expérimenté plusieurs relations de couple qui n'ont pas fonctionné. Mais ce que je dis, c'est que pour les femmes, c'est devenu quand même très compliqué, dans la mesure où elles ont récolté beaucoup d'avantages, mais qui se sont retournés contre elles. Donc je dis beaucoup de femmes, bien sûr, il y a des exceptions, sont soumises à ce que j'appelle un triple esclavagisme moderne, le bureau, la maison, le lit, où il faut rapporter à tout prix.
Et être performant.
Alors, c'est, oui, être performant, oui. C'est... Donc, ça donne des vies qui sont parfois infernales. Hein. Alors, bien sûr, il reste toujours des femmes qui ont des boulots passionnants, qui s'éclatent dans leur travail, mais je pense qu'il y en a eu tout autant avant. Et puis d'autres, ben, qui sont dans des situations extrêmement précaires, qui élèvent des enfants toutes seules, et où là, il y a une vraie démission où il n'y a plus de masculin, où l'homme a disparu, en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a les deux cas de figure, mais les femmes sont quand même dans les témoignages, on parle beaucoup de leur souffrance, leur désarroi.
Alors Nathalie Vrignoli, on a parlé de la confusion des rôles masculin-féminin, du féminisme comme arnaque marketing, d'internet. La chirurgie esthétique, la pornographie n'échappe pas non plus à votre plume acérée.
Absolument. Bah, écoutez, la chirurgie esthétique, c'est une des parties du livre qui a pas été modifiée du tout, qui est effectivement assez virulente. Et je l'ai vu comme une sorte de révolution esthétique, en fait. Mais c'est quelque chose qui, honnêtement, me choque. Et d'ailleurs, je suis choquée qu'on en parle si peu, en fait, que ce soit entré dans les mœurs de façon aussi évidente. J'ai l'impression que c'est une vraie hystérie collective, en fait. Et là-dessus, je me place pas du tout d'un point de vue, on va dire, éthique, moral ou religieux. Au contraire, je me place d'un point de vue purement esthétique. Et je me dis que c'est quand même étonnant que, quand en 2016, on soit entré dans ce genre d'hystérie, en fait, quoi. Que je pense que ça participe fondamentalement d'un refus profond du vieillissement et donc d'un refus de la mort. Et en plus, je pense qu'il y a un désir d'uniformisation, en fait. Hein. Comme si, effectivement, on a un capital beauté ou santé ou énergie au départ, mais on finalement le refuse, donc on veut ressembler à quelqu'un d'autre, d'où l'uniformisation. Et là-dessus, c'est vrai que je parle d'un personnage féminin qui serait un personnage imaginaire, mais qui s'appelle Désespérée de Barbie, qu'on retrouve un peu tout au long du livre, et bon, qui est la consommatrice moderne, la nouvelle consommatrice moderne, qui répond à ce que le marché, la société lui demande, qui fait de la chirurgie, qui consomme, etc. Voilà.
Nathalie Brignoli, dans votre livre, il y a donc des témoignages avec un très large éventail, hein, voilà, les hommes, ouais, des femmes, seuls, ouais, ou en couple, jeunes ou plus âgés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a plus de points communs entre tous ces témoignages ou plus de divergences ?
Alors, je pense que, effectivement, comme vous dites bien, les témoignages émanent d'hommes et de femmes de 20 à 72, 75 ans, donc de toutes catégories sociales, hétérosexuelles, homosexuelles, en couple, divorcées. Alors, je pense qu'il y a, enfin, d'emblée, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de convergences, hein, dans la mesure où les femmes se plaignent toutes à peu près de la même chose, c'est-à-dire pas forcément de l'infidélité des hommes, hein, qui est un phénomène qui existe depuis longtemps. C'était pas le sujet du livre, on me l'a souvent demandé, mais je parle pas tellement de ça, mais plutôt de l'incapacité ou de la difficulté des hommes à s'engager, à se positionner de façon claire ou à s'affirmer dans leur rôle masculin. Les femmes ne voient plus tellement le masculin chez les hommes, hein. Donc elles disent souvent qu'elles se sentent ou peu désirées ou alors juste désirées et souvent très seules. Elles parlent beaucoup d'un manque de protection. Alors même si elles sont très indépendantes, qu'elles gagnent bien leur vie, etc., elles se sentent plus protégées par les hommes.
Les hommes seraient-ils plus faibles qu'avant 1968 ?
Ouais, ils sont plus féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de se retirer un peu du jeu et de laisser les femmes s'émanciper. Donc ils l'ont fait. Mais forcément, comme je dis toujours, il y a un prix à payer. Et ce prix, on l'avait pas forcément vu au départ. Donc les hommes profitent d'un marché ouvert. Hein. Alors certains parlent aussi de leur souffrance. Mais je pense qu'ils souffrent de façon moins flagrante. Ils s'accommodent peut-être plus facilement de la situation, même si aussi constatent un vrai changement relationnel.
Le paradoxe, finalement, ouais, c'est que aujourd'hui, on n'a jamais été aussi, ouais, libre, oui, d'inventer les relations de,
ouais,
couple, et en même temps, on a de plus en plus de peine à en avoir d'harmonieuses.
Voilà, vous avez parfaitement résumé la chose. Je pense qu'on a tous les moyens à disposition. On est extrêmement libre. On a tout ce qu'il faut. On a tous les moyens. Et en même temps, c'est devenu compliqué parce que cette liberté, cette toute grande liberté, en fait, induit forcément une solitude. Et puis les codes ont changé, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Maintenant, enfin, ça, c'est aussi l'idéologie des années 70 qui, par exemple, a fait croire aux femmes que, bah, que tout était possible, qu'on pouvait être une parfaite professionnelle, réussir sa carrière, être une maman accomplie, développer sa vie intérieure, avoir une sexualité réussie. Et je pense que tout ça, c'est un leurre, en fait. Que si on arrive dans un des domaines, c'est déjà pas mal, quoi.
C'est bien, oui.
Bon, en deux mots, Nathalie Mignoli, le constat, il est un peu amer. Il y a un peu d'espoir, quand même.
Oui, alors, écoutez, au départ, c'était plus amer. C'est-à-dire que mon éditeur, Favre, m'a dit effectivement, il va falloir trouver quelques témoignages un peu plus optimistes. Donc, quand j'ai repris le livre en début d'année dernière, j'étais obligée de partir à la recherche de personnes pour qui ça marche, quand même, pas trop mal, après quelques tentatives. Donc ça existe. Et puis c'est vrai qu'après les témoignages, j'essaye toujours à un moment donné de trouver une porte de sortie, ce que j'appelle une clé, et puis d'en tirer quelques pistes, quoi, pour que oui, effectivement, on peut s'en sortir. Après, c'est même si c'est devenu un peu compliqué.
Survivre au désenchantement du couple, hein, c'est le sous-titre de ce livre, Le chaos de la séduction moderne. C'est donc paru hier aux éditions Favre. Nathalie Abrignoli, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci.
Belle journée.
Merci. Au revoir.